Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Sauty de Chalon.
Bonjour et bienvenue au fil des pages consacré à l'essai de Jean Botorel, Requiem pour les Français, 30 ans de lâcheté politique. C'est aux éditions François Bourin et Jean Botorel est avec nous pour en parler. Jean Botorel qui a une carrière au Figaro pour ceux qui l'ont connu, en particulier entre 82 et 96, soyons précis, Jean Botorel, 15 ans passés au Figaro. Vous avez écrit également des biographies, dont la plus célèbre est celle consacrée à Louise de Villemorin. Vous avez écrit sur Georges Bernanos également. Bonjour Jean Botorel.
Bonjour.
Alors, Requiem pour les Français, j'avoue, c'est vrai que quand on voit le titre, Requiem, franchement, ce n'est pas réjouissant. Alors, c'est sans fleurs ni couronne pour nous, demain, ça y est, c'est cuit. De quoi s'agit-il ?
Bon, c'est pas exactement ça. Le fond de ce livre est né d'un constat que tout le monde peut faire. Je pense qu'aujourd'hui, la France telle qu'on l'a connue, et qui était une France avec une volonté intégrationniste forte, qui était une France laïque, cette France-là, je crois, est en train de mourir, oui. Pour une autre France qui va être une France de plus en plus communautariste et une France de moins en moins laïque. Et c'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre.
Alors une précision d'emblée, est-ce que vous vous situez dans la filiation de déclinistes type Nicolas Bavré qui sont d'origine libérale et qui s'en sont pris à ce thème du déclinisme précisément ?
Non,
ce
n'est pas un déclin. Je ne sais pas ce qu'il adviendra. Mais ce que j'aimerais, c'est que la classe politique et la classe dirigeante globalement acceptent de dire les choses. Or, ces choses-là, on ne les dit pas. On continue de dire que la France est intégrationniste, qui était un très merveilleux principe. On continue de dire que la France est laïque. Et je crois que ça, c'est fini et on n'ose pas le dire. Alors, je ne sais pas pourquoi on a peur de cette vérité. Et pourquoi je pense que c'est fini ? C'est parce qu'il y a une loi du nombre sur laquelle je reviens, qui est celle de la démographie. Nous allons bientôt, non pas être minoritaires, les Français dits de souche, comme on les appelle, ce que je n'aime pas beaucoup, mais je pense qu'aujourd'hui...
2060. Hein.
Voilà, certains estiment que ce sera en 2060. Bon,
c'est le cas de Jean-Paul Gourevitch, qui est un expert
exactement.
Tout à fait reconnu dans ce
domaine-là. Tout à fait. Bon, alors on serait mort à cette époque-là. Mais ce que je ne comprends pas aujourd'hui, c'est que le discours politique occulte totalement ce problème au nom d'une certaine idée de l'homme, ce qui est très juste, mais en même temps, il faut savoir où on va. Moi, je pense que ce sera très difficile pour les générations qui viennent de s'accommoder de ces populations qui n'ont ni la même culture, ni la même religion, ni la même histoire que nous et qui deviennent population qui devient très nombreuse. Et c'est le cœur, pour moi, du sujet.
Alors précisément, ce que je voulais dire, c'est que vous situez votre propos non pas sur celui en soi de la crise et de l'économie,
non.
Mais plutôt de la population.
Oui.
Ce n'est pas un déclinisme ou un reflux de l'identité française du point de vue de sa puissance économique.
Non, mais je pense que la crise économique dans laquelle nous sommes maintenant installés et qui va, hélas, perdurer, ne va pas arranger les choses de ce point de vue-là. Parce que tout de même, ce que l'on appelle les quartiers, à mon avis, vont souffrir terriblement de cette crise, puis ils peuvent également bouger de façon forte et probablement violente. Je pense que notre pays, de par sa tradition historique, n'est pas habitué à ce type de république, appelons-la communautariste, ce qui est le cas des États-Unis, par exemple, ce qui est le cas de la Grande-Bretagne, où ils ont une appréhension de la violence qui n'est pas du tout la nôtre. Il faut tout de même savoir que nous, quand il y a des graves crises en banlieue, le pays est complètement estomaqué, presque assommé, alors que je voudrais rappeler aux auditeurs que aux États-Unis, et y compris en Angleterre, ce sont des choses qui sont hélas quasi hebdomadaires. Donc il faudra revoir complètement le comportement sociétal de nos concitoyens. Il faudra s'habituer, en effet, je crois, à de plus en plus de tensions fortes entre les différentes communautés. Et cela tient au nom, oui.
Alors, je vais vous citer Jean Botorel, donc dans cet essai intitulé « Requiem pour les Français » aux éditions François Bourin. Je cite une phrase hein, « Sur les représentations biologiques et la représentation sociale. S'il n'y a pas de sang noir, blanc ou jaune, il y a des noirs, des blancs, des asiatiques. Et dans la vie de tous les jours, notre vision du monde ne peut pas s'abstraire des catégories raciales, dites-vous. » Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Ne pas s'abstraire des catégories raciales, qu'est-ce que ça veut dire pour une société ?
Bah, ça veut dire que...
Vous situez tout de suite sur le terrain, justement, des populations.
Tout à fait, oui. Ça n'a pas un caractère raciste, précisément, mon observation, mais elle relève du simple bon sens. Je pense, en effet, que sans être raciste, je crois que nous sommes différents. Or, la différence, quand elle se communautarise, parce que c'est le mot central, tout de même, quand elle se ghettoise, comme on disait, un mot épouvantable, je trouve, eh bien, cette différence-là, elle génère des chocs, elle génère des tensions, et on ne peut pas s'abstraire de ça. Chacun est conscient que, dès aujourd'hui, et depuis maintenant 8-10 ans, vous avez, pour ne prendre que Paris, des communautés de caractère asiatique, de caractère africain ou de caractère maghrébin, qui vivent entre eux, et qui créent entre eux une société tout à fait conviviale. Or, ce n'est pas du tout ce qui était notre intention au départ. Aux États-Unis, pour revenir à ce pays, c'est comme ça depuis longtemps. Chacun travaille ensemble dans la journée, chacun rentre chez soi le soir, et il n'y a pratiquement pas de croisement entre les différentes communautés américaines. Pratiquement aucun. Il y a évidemment quelques mariages entre noirs et blancs, entre hispano et américains, ça c'est évident, comme en France. Mais les communautés sont entre elles. Or, nous, nous sommes en train d'entrer dans ce système-là, et ça nous sera très difficile compte tenu de notre histoire, encore une fois, de la conception que l'on a des droits de l'homme, de la Révolution française, et puis de nos trois grands principes républicains, liberté, égalité, fraternité.
Finalement, ça veut dire que notre modèle...
est mort, voilà.
Est mort, moi, vous le dites carrément, Requiem,
oui, moi, je
c'est
pense
ça.
Que c'est, voilà, notre modèle français est mort. Et on n'ose pas le dire, on ne veut pas le dire, et on continue de laisser... les hommes politiques extrêmes, dits extrémistes, le dire. Alors évidemment, Marine Le Pen, elle tient un discours qui est très proche de ce que je dis, avec une violence peut-être différente, mais elle dit une vérité. C'est pas parce que c'est Marine Le Pen qui le dit que ça n'est pas une vérité, de mon point de vue. Maintenant, on peut discuter avec moi, certains ne sont probablement pas d'accord, mais alors qu'ils me le démontrent.
Mais alors, Jean Botterel, quand même, qu'est-ce qui est mort précisément ? C'est le modèle donc républicain par la faute même des Français qui sont passés dans la frégate anglaise du modèle anglo-saxon.
Oui, c'est très joliment dit, oui.
Est-ce que c'est cela ? Est-ce que c'est notre propre abandon, notre propre reniement ?
Oui, je pense.
Ou est-ce que c'est un danger qui émane des populations dont vous parlez ? Est-ce qu'il y a un danger extérieur ?
C'est un peu les deux, mais aujourd'hui, si j'ose dire, c'est trop tard. Mais je pense que la politique telle qu'elle a été pratiquée il y a une trentaine d'années ou une quarantaine d'années, nous n'avons pas eu de politique de maîtrise des flux migratoires. Je ne parle pas de la politique de l'immigration, je parle de la maîtrise des flux. Nous n'en avons pas eu, beaucoup de pays ne l'ont pas eu non plus et sont confrontés à ce problème. L'Allemagne est confrontée à ce problème, elle risque de l'être de plus en plus, surtout s'il y a des tensions entre la Turquie et l'Europe.
Bien qu'en Allemagne, ce soit le droit du sol isole encore plus les communautés étrangères.
Voilà, tout à fait. Mais on ne peut pas quand même se voiler la face. Si les tensions perdurent avec le Moyen-Orient et en particulier avec la Turquie, je pense que l'Allemagne aura des problèmes. Nous, nous en sommes là aujourd'hui avec nos différentes communautés. Et je ne sais pas ce qui se serait passé s'il y avait eu une volonté de maîtriser un peu plus les flux migratoires. Et c'est le second aspect de ce modeste essai, c'est que je me suis posé la question, pourquoi avons-nous une telle culpabilité dès l'instant où on touche à ce problème, avec les lois mémorielles, avec la repentance, avec tout ce qui m'insupporte énormément. Alors, parce qu'il faut tout de même rappeler aux Français que en 1962, entre 1960 et 1967-68, nous avons accueilli énormément de populations africaines et maghrébines à cause de la décolonisation. Or, ces populations-là, à l'origine, n'avaient aucune envie de ne pas être intégrées. Au contraire, elles étaient très laïques. Elles étaient, par exemple, prenez les Kabyles, qui le sont toujours d'ailleurs. Il y a 2 millions de Kabyles en France. Leur volonté est toujours de s'intégrer à notre République, à nos lois, à nos principes. Mais ce qui se passe depuis quand même une dizaine d'années, c'est que les nouvelles générations issues de l'immigration, loin de vouloir s'intégrer à nos principes républicains, ne veulent plus et revendiquent.
Mais pourquoi s'intégrer, Jean Botterel ? J'inverse un petit peu la question. Voilà, alors que le système vous refuse, le système de promotion sociale...
Oui, c'est pour ça, mais alors justement...
Ça a commencé par l'école, voilà. Vous conduit à l'échec. Pourquoi ? Voilà. Pourquoi vouloir s'intégrer dans ce cas ?
Je suis complètement d'accord avec vous, mais maintenant nous avons ce problème à résoudre. On ne va pas revenir en arrière. C'est pour ça que je revenais en arrière en me disant que se serait-il passé si on avait fait, par exemple, prenons l'exemple de l'Italie ou de l'Espagne. Bon, vous me direz que c'était des populations qui traditionnellement étaient, au contraire, émigrantes, plus que des terres d'émigrants. Elles étaient Elle migrait plus que nous, évidemment, mais l'Italie est beaucoup plus homogène que nous, de ce point de vue-là. L'Espagne est beaucoup plus homogène que nous. On ne le dit pas non plus, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, alors que ce sont là des évidences. Nous, on a voulu jouer sur les deux tableaux, en fait. On a voulu accueillir, ce qui est très très bien et très grand, et en même temps, en accueillant, on a toujours cru qu'on allait les intégrer. Or, voilà maintenant 40 ans, on ne peut plus raisonner comme ça.
Une telle croissance des immigrés, écrivez-vous, est incompatible avec la plus généreuse, la plus imaginative des politiques d'insertion. L'immigration de masse n'est plus une chance, elle est un danger. La chance pour la France, c'est une phrase des années 80.
Voilà,
Jean Botorel.
Voilà, bon, c'est pour ça que je dis.
Au moment où vous parliez de la politique au Figaro.
Oui, oui, exactement. Voilà. Mais c'était déjà, on pressentait déjà, mais c'était un sujet tellement polémique que si vous l'abordiez. Un de mes premiers éditoriales du Figaro a été là-dessus, c'est curieux, ouais. Alors que je n'étais pas du tout dans l'analyse, je n'avais pas d'abord l'expérience, entre guillemets, que je peux avoir aujourd'hui de tous ces problèmes, mais curieusement, un de mes premiers papiers au Figaro éditorial a été là-dessus. Et j'ai été, mais pendant, j'ai eu le droit pendant plusieurs semaines à être traité de fasciste par le Canard Enchaîné. Chaque fois que je faisais une petite erreur, j'étais flingué.
Et là, on est dans les années 80.
Donc,
avec l'émergence du Front National dans les années 83-84.
Qui, lui, a appuyé fortement là-dessus. Et aujourd'hui, on n'a pas avancé. On n'a pas avancé. Et toutes les déclarations flamboyantes des différents ministres, y compris de gauche, et Jean-Pierre Chevènement s'était manifesté avec une certaine force sur le sujet.
Et vous montrez l'ambiguïté de sa politique.
Ben, évidemment, évidemment, puisqu'on ne peut pas. Mais je ne dis pas que ça n'est pas gérable. Je ne suis quand même pas pessimiste à ce point-là. Je ne dis pas du tout que ça n'est pas gérable. Mais disons-le. Mettons les choses sur la table. C'est comme le vote des étrangers, de donner le droit à la citoyenneté à des gens qui ne sont pas français.
Aux élections locales.
Aux élections locales. Mais c'est une accélération du communautarisme. Là, Nicolas Sarkozy l'a dit et il a raison. Et tout le monde le sait, y compris à gauche, à droite, au centre et dans tous les partis. Mais on ne le dit pas. C'est interdit. On se fait immédiatement traiter de... C'est curieux d'ailleurs, c'est quelque chose qui m'a toujours intrigué, c'est-à-dire que chez nous, il y a des sujets totalement tabous, et dès que vous les abordez, vous êtes, en général d'ailleurs, vous êtes classé toujours à l'extrême droite.
On aime les étiquettes en général.
En plus, c'est le mot qui tue, c'est quand même fasciste, raciste, etc. Donc,
qui interdit tout débat. En tout cas, ici, Jean Botorel, on est là pour poser les questions simplement, sans faire nécessairement d'ailleurs de politique.
De politique, non.
On est là pour analyser les faits tels qu'ils sont. Juillet 1974, aussitôt après son installation à l'Élysée, Valéry Giscard d'Estaing décide de créer un secrétariat d'État chargé des travailleurs immigrés en se donnant pour objectif de corriger une politique qu'il juge trop souple et surtout trop anarchique. Et là, vous ajoutez une chose, contrairement à ce que ne cessent d'affirmer ses adversaires, la politique dite du regroupement familial n'est pas une initiative de Valéry Giscard d'Estaing, elle est l'œuvre, sous la présidence de Georges Pompidou, de Raymond Marcellin, ministre de l'Intérieur, bien connu des étudiants de mai 68, et qui est à l'origine de cette politique.
Oui.
Alors précisément, c'est Joseph Fontanet, aussi ministre du Travail à l'époque, dans le gouvernement de Jacques Chaban-Delmas.
Oui, exactement.
Que faut-il conclure ? Vous écrivez Jacques Chaban-Delmas.
Ah bon, c'est Chaban, bon, c'est beaucoup plus tôt même, vous voyez. Si j'ai mis Chaban-Delmas, c'est exact.
Donc ce n'est pas Giscard en fait, on accuse systématiquement Giscard d'être à l'origine de l'ouverture des vannes, hein, disent certains.
Parce que ce qui s'est passé sous Giscard, c'est qu'on a conceptualisé ce qu'avait fait Marcellin et en appelant ça le regroupement familial. Or, Raymond Marcellin et pas plus que Joseph Fontanet d'ailleurs n'avaient jamais utilisé cette formulation et c'est ça qui a valu à Giscard parce que c'est formidable, le concept est clair pour les gens, le regroupement. Or, ce qu'avaient voulu Marcellin et Fontanet dès 71 et 72, c'est précisément cela, puisqu'ils souhaitaient que les patrons qui engageaient des immigrés puissent faire venir leur famille, et c'était pour, dans l'esprit de Marcellin, un homme que j'ai très très bien connu, une façon de les, précisément de les intégrer, et puis surtout de ne pas leur offrir n'importe quoi, enfin c'est vrai.
D'accueillir dignement.
Je cherchais l'expression, d'accueillir dignement, et évidemment ça s'est accéléré très très vite, parce qu'en 73, il y avait déjà beaucoup de regroupements familiaux, mais l'expression n'était pas utilisée. Je ne sais pas qui l'a inventée d'ailleurs, cette formule, le regroupement familial.
Voilà une piste de recherche nouvelle. Jean Botorel, vous restez avec nous. Requiem pour les Français, 30 ans de lâcheté politique aux éditions François Bourin. Au fil des pages avec Jean Botorel, journaliste et écrivain, Requiem pour les Français, c'est aux éditions François Bourin, dans la collection 30 ans de lâcheté politique. Alors c'est vrai que vous y allez assez fort, à la fois du verbe et puis de la description, j'allais dire analytique des choses. Vous retranscrivez une discussion rapide avec Jacques Chirac. Alors j'aimerais que vous nous racontiez un petit peu les choses. Une anecdote sur un Jacques Chirac qui vous parlait de sa culture chinoise et vous affirmez que cela ne procédait ni de l'amateurisme ni du snobisme. Puis, il eut cette phrase inoubliable selon vous. Écoutez, monsieur Botorel, tout ce que les Blancs touchent, ils le salissent. Et là, vous restez quoi? Et devant votre silence, Jacques Chirac ajouta sardonique, ah, je vous choque, bon, parlons d'autre chose. Jamais la discussion n'est allée plus loin.
Non. De ce quoi je l'ai peu vu ensuite, Jacques Chirac, puisque j'ai la réputation, à tort ou à raison, d'être assez proche de Valéry Giscard d'Estaing, que j'aime beaucoup d'ailleurs, c'est vrai, plus qu'il y a un talent qui est de vous faire rire et qui a énormément d'humour. Et là aussi, c'est une de mes grandes interrogations. Comment a-t-il pu faire en sorte de si j'ose dire, de se vendre aussi mal aux Français? C'est incroyable, ce manque de psychologie par rapport à nos concitoyens. Mais l'homme lui-même... pris comme ça en dehors de la politique, est formidable. Donc, je n'ai jamais été très proche de Chirac, mais à cette époque-là, je l'ai été parce qu'en effet, j'ai dit très vite dans le Figaro, où j'avais un éditorial presque tous les jours, qu'il serait élu contre Édouard Balladur. Je faisais des analyses à l'époque, c'était intuitif évidemment, mais en même temps, bon. Et très vite, quelqu'un a dû lui faire remarquer, mais vous devriez inviter Botorel à déjeuner. Et j'ai donc déjeuné... 3 ou 4 reprises à l'époque avec lui en tête-à-tête. Et ce déjeuner-là n'a pas été le dernier, mais je ne suis jamais revenu sur cette formule qu'il a eue. C'est vrai qu'il m'avait laissé un peu pantois.
Et c'est une conviction profonde pour lui.
Oui, je crois. Et je crois que Jacques Chirac avait un syndrome extrêmement africain, extrêmement asiatique, et que ces civilisations-là, même s'il n'était pas lui-même un ethnologue ou un archéologue ou un historien de la paléontologie, il avait une véritable connaissance du sujet. Et ça, c'est indéniable.
Et vous estimez que ça a joué dans une forme de désarmement moral et politique?
Oui, je pense. Oui, je pense. J'en suis convaincu, peut-être à tort. Je pense que Chirac n'avait plus l'idée d'une certaine grandeur de la France et il a géré sa politique de manière à intégrer ce pays dans le concert des nations, mais sans trop porter sa voix, sauf, et là je l'ai d'ailleurs salué, parce que j'étais totalement d'accord avec lui, c'est la position qu'il a prise à propos de l'Irak. Et là, il a été très très courageux, et d'ailleurs j'ai été très très surpris qu'il s'engage aussi fortement, aussi contre la position américaine et la manière dont l'Irak a été envahi. Et l'histoire, là, lui donne aujourd'hui, en tout cas, terriblement raison.
Peut-être avait-il aussi un tropisme pour les trésors mésopotamiens.
Peut-être, oui. Il n'était pas, puisque vous me parlez de ça, je ne me souviens pas qu'il ait été au 4000e anniversaire de la Perse, quand Jacques Chaban-Delmas avait fait un grand raout en Perse. Et
Encore une chose à vérifier, Jean Botorel, décidément, ouais, ça fait beaucoup, entre le regroupement familial et puis la présence de Jacques Chirac à l'anniversaire de la Perse.
Non, on rit, on a raison d'en rire de tout ça, mais Jacques Chirac a eu une politique, je dirais, très low profile de la France.
Mais est-ce que Giscard, je vous pique un petit peu, Giscard ne l'avait pas déjà
vu? Il l'avait déjà vu. Je trouve que Giscard, de ce point de vue, avait une conception de l'histoire extrêmement relativiste et il a vu clairement beaucoup de choses. Et quand il a dit que la France n'était plus un grand pays, parce que c'est même lui qui l'a dit, il avait hélas raison. Mais entre ne plus se penser comme grand pays et ne plus porter sa voix, il y a une autre chose. Alors Chirac d'ailleurs l'a démontré, puisqu'il a porté sa voix dans l'affaire de l'Irak. C'était des hommes qui, de ce point de vue-là, étaient très modernes. Ils avaient une conception de la relativité des choses très forte. Et Giscard, par exemple, a dit une chose également que l'on oublie, dans un article où il était encore très jeune, il avait 36-37 ans, dans le Figaro, où il a dit qu'aujourd'hui, il n'y aurait plus d'illustres personnages, tout s'effacerait. On a beau, en effet, enterrer le dernier des illustres. Au fond, je pense que les derniers illustres, entre guillemets, on arrive à De Gaulle, on arrive à Staline, on arrive à Mao aujourd'hui.
Illustres dans le malheur comme dans le bonheur, on pourrait dire.
Dans le bonheur, voilà, c'est exact. Les écrivains, par exemple, aujourd'hui un écrivain doit quand même avoir conscience que ce qu'il écrit risque à très 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 peu de chances de passer à la postérité.
Et ça se dit, la postérité, c'est très difficile de l'évaluer.
Voilà.
Par définition,
mais on le sent, si vous voulez. Et de ce point de vue, c'était deux hommes qui avait une conception, en effet, pas modeste, mais la France, pour eux, c'était surtout de la porter dans un monde de plus en plus difficile. Et
on s'aperçoit, voit. Jean Botorel, que l'histoire d'un tout un pays peut dépendre d'un seul homme.
Oui. Hein,
Napoléon disait...
Voilà, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est
50 000, il avait 50 000 hommes, plus
exact.
Lui, ça fait 150 000 hommes. Hein.
Voilà, c'est exact, oui. En tous les cas.
Donc ça dépend beaucoup du chef. Hein.
Oui, mais aujourd'hui, nous manquons, bon, c'est une banalité de le dire, mais il n'est pas inutile de le dire, on manque terriblement de leadership. Enfin, la crise de l'Europe en témoigne.
Vous me permettez d'aller sur un terrain, puisqu'on est en lien ouais. avec votre essai à la Guyane pour les Français, je rappelle. Hein. Les questions liées à l'immigration massive, le fait que jamais, vous l'écrivez, aucun gouvernement n'ait jamais voulu prendre le sujet à bras-le-corps, on se retrouve dans une situation qui finalement tourne au détriment de tout le monde. Est-ce que ce n'est pas, au lieu d'attaquer les politiques, n'est-ce pas simplement la volonté du patronat d'avoir voulu, dans le cadre de la division internationale du travail ou du dumping social, d'avoir voulu faire venir des populations que l'on paierait moins cher, tout simplement pour les faire travailler à bas prix, au détriment des ouvriers français qui coûtent plus cher? Autrement dit, n'est-ce pas l'économique qui a une responsabilité tout simplement là-dedans et pas tellement le politique?
Oui, c'est certain que l'économique, comme vous dites, a une responsabilité. Mais il ne faut pas non plus l'exagérer. Je veux bien croire au dumping international et commercial, mais tout de même, il y avait de la part de la population française en général, surtout dans ces générations-là, qui étaient la mienne, la volonté de sortir par le haut. C'est-à-dire qu'on avait de plus en plus de mal, tout de même, à trouver des Français qui acceptaient un certain nombre de tâches. Et c'est une des raisons pour laquelle le patronat, tout de même, a dû faire appel à pas mal d'immigrés. Il y a une autre raison qui n'a rien à voir avec le patronat, c'est que je crois que la France, jusqu'à il y a simplement une vingtaine d'années, hein, en gros, la France et l'intelligentsia française étaient pétries de ces idéaux. Et on avait une lecture idéologique de l'immigration, de la démographie, des rapports de force dans le monde. On a encore une lecture idéologique d'ailleurs. Et donc cette lecture idéologique faisait que nous devions accepter, et que c'était notre devoir d'accepter tout ce qui nous arrivait, que nous étions en capacité, comme on dit aujourd'hui, formule étrange d'ailleurs, de bien les accueillir. La pesanteur de l'idéologie, appelons-la de gauche, parce que c'est elle, la pesanteur de cette idéologie issue du marxisme, issue de la lutte des classes, issue de l'internationalisme, était très très forte et très pesante chez nous, et a interdit pendant très très longtemps toute une série de débats, et d'ailleurs les concepts de la repentance, les lois mémorielles, etc., viennent de là. C'est indéniable, ça ne vient pas de la pensée libérale de droite. Ça vient de cette tradition très forte, très enracinée. Au fond, pendant un siècle, en gros, la France intellectuelle a vécu sous l'emprise de normal sup des années 1890-1910. Ça a été un creuset intellectuel très puissant, indéniablement puissant. Il faut quand même savoir que vous avez en 68... Après donc l'affaire de Prague, vous avez des normaliens qui s'inscrivent au Parti communiste français. On a oublié ça. Moi, j'en connais quelques-uns.
Donc vous voulez dire que toute la rhétorique, le discours de l'accueil, le discours vient de là.
Oui, bien sûr. On était imprégnés de ces idéaux-là.
Mais quel lien? Quel lien entre ce creuset et l'histoire que nous vivons aujourd'hui?
Eh bien, le lien, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons jamais pu mettre en place une politique de maîtrise des flux. Parce que toute politique de maîtrise des flux était radicalement condamné, que le patronat en veuille ou pas, ça, à la limite, bon, c'est important, mais à la limite, c'est secondaire. Elle était systématiquement condamnée. Tous les
ministres... Au nom de quoi la libre circulation était-elle un dogme?
Au nom d'une idéologie d'accueil, une idéologie internationaliste, qui est celle, par exemple, encore aujourd'hui, d'Eva Joly. Elle tient un discours, au fond, d'effacement de notre identité historique, au nom, mais je la condamne pas, mais je suis pas d'accord avec elle. Mais peut-être que c'est le monde vers lequel on va, un monde mondialisé, un monde...
Indifférencié,
bon, c'est possible. Or, aujourd'hui, curieusement, mais encore une fois, je crois que c'est trop tard, cette pensée-là, ce creuset de pensée intellectuelle issue, comme je le disais tout à l'heure, de nos grands intellectuels de Normal Sup et en particulier, cette pensée-là, elle est en train de s'effriter, elle est fragilisée. Mais vous avez encore des porte-voix. Vous avez Mélenchon, par exemple, est un porte-voix de cette pensée. Beaucoup plus finement et plus intelligemment, Eva Joly. Parce que Mélenchon, c'est un porte-voix un peu dans une tradition marxiste.
Un Georges Marchais.
Oui, un peu relouqué.
Réincarné.
Réincarné, bizarre, alors qu'il aurait pu avoir un boulevard devant lui. Et Eva Joly, Et puis, on continue malgré tout, au nom encore de cette pensée idéologique forte, de cette conception que l'on a de l'idéologique de l'histoire, parce qu'on l'a toujours, hein, on est comme ça les Français, il n'y a que nous qui sommes comme ça presque dans le monde. Au nom de cette conception, si vous êtes sur une ligne comme cet essai, on vous soupçonne de fascisme, de racisme, de ci, de ça. Bon, vis-à-vis de moi, je n'ai jamais senti ce sentiment, hein, je le dis tout de suite, il n'y aurait pas de raison d'ailleurs.
Alors que le fascisme en France n'a jamais existé.
Il n'a jamais existé en plus, mais voilà. Donc, et aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que les communautés donc, d'immigrés se regroupent, se solidarisent par les réseaux sociaux et forment des collectifs et qui sont quand même d'une violence. C'est le déclenchement d'ailleurs de ce travail. J'étais sidéré de la violence de certains collectifs maghrébins, africains ou vis-à-vis des Français de souche, des sous-chiens.
Vous semblez dire qu'il y a des sous-chiens, comme disent Ouria Boutelja, des indigènes de la République. Ouais. Jean Botterel, on semble voir à travers votre propos qu'il y a une forme de loi de l'histoire, cette nature qui est horreur du vide. Ouais. Quand un peuple devient faible, il est inévitablement, non pas objet de compassion, mais au contraire combattu. Ça semblerait être un peu votre disposition d'esprit.
Oui, c'est exact. Je pense que le mot de Aron que je cite, il ne faut jamais oublier que l'histoire est tragique. Moi, j'ai beaucoup aimé Raymond Aron, je l'ai connu. On l'oublie. On l'oublie, et là encore, autre étrangeté de notre époque.
Ce n'est pas la seule chose qu'on oublie.
C'est pas la même chose, mais en même temps, on l'oublie à un moment où il y a des turbulences et des tragédies dans le monde qui nous tombent tous les jours devant le nez à travers la télévision et à travers la radio. Et en dépit de cela, on l'oublie, on continue de faire comme si. Et ce refus d'une certaine vérité qui n'est pas la vérité politicienne, que je pourrais l'appeler une vérité ontologique presque, cette vérité-là, on ne veut pas, on ne l'accepte pas, donc on ne discute pas. Et beaucoup d'essais de cette nature sont un peu blacklistés. Je ne vais pas pleurnicher, hein, c'est pas bon, mais on est blacklistés, on rentre pas dans le débat. On vous invite pas, on hésite, on se dit, bon, qu'est-ce qui va se passer? Puis si vous vous attachez à faire un livre de cette nature qui est court, donc vous êtes obligé d'approfondir votre sujet, parce que plus c'est court, plus ça doit être serré, autrement... Personne, pour l'instant, n'a relevé une erreur de date, de fait. L'esprit, on peut être contre, mais autrement, j'aurais été immédiatement, passez-moi le mot, flingué. Si j'avais fait une mauvaise citation ou quelque chose de ridicule, j'aurais été flingué.
Jean Botterel, merci beaucoup. 115 pages, on peut le souligner, effectivement, 115 pages.
Court, oui.
C'est un essai court, mais justement, qui a d'autant plus de chances d'être lu pour cette raison-là. En particulier, c'est la densité, la vivacité, la clarté, je dois aussi dire, de ce propos. Et puis nous, on est là pour ouvrir le débat, pour poser les questions honnêtement sur la table. Merci beaucoup d'y avoir contribué.
C'est moi qui vous remercie.
Je le rappelle, Requiem pour les Français, 30 ans de lâcheté politique. C'est aux éditions François Bourin dans la collection politique. Et c'est signé Jean Botterel. Merci beaucoup d'être venu à Canal Académie.